talmudique. Les calendriers des fêtes juives et des fêtes chrétiennes jouent souvent à cache-cache, se rapprochent, s'éloignent, parfois se croisent et parfois coïncident. Cette année, qui est une année embolismique pour le judaïsme, c'est-à-dire une année de 13 mois, les fêtes chrétiennes précéderont les fêtes juives et c'est ainsi que la fête des Pâques chrétiennes, fêtée aujourd'hui, tombe 3 semaines avant la fête de la Pâque juive. La première commémorant l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection du Christ, la seconde commémorant la sortie d'Égypte, le pivot existentiel du peuple juif. Les deux fêtes ayant cependant un point commun, celui du salut, l'espérance d'une vie meilleure, apaisée, une vie de justice et d'égalité pour tous, espérance qui se cristallise en une personne, celle du Messie ou d'une époque nommée messianique. Le messianisme chrétien et le messianisme juif, même s'ils portent le même nom, ne recouvrent pas les mêmes concepts. Et c'est une grande chance de rencontrer des personnes qui puissent nous aider à aborder dans une langue et une pensée abordables ces concepts complexes, souvent tissés de préjugés et de préconceptions erronées, ce que réussit à faire notre invité d'aujourd'hui dans un ouvrage intitulé sobrement « Dévoilement du Messie ». C'est aux éditions Carnet des Clés de Brouwer et c'est un vrai plaisir de recevoir aujourd'hui son auteur. Pierre-Henri Salfati, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Henri Salfati, vous êtes cinéaste, scénariste, acteur et écrivain. On vous doit plusieurs ouvrages et plus d'une trentaine de films, dont la plupart ont reçu des prestigieux prix, dont une sélection au Festival de Cannes, le prix Jean Vigo, le prix de Rome et un Emmy Award. Comment le cinéaste que vous êtes, qui fut aussi résident à la Villa Médicis, en est venu à s'intéresser au Messie? Y a-t-il quelque chose de messianique dans l'art cinématographique?
Eh bien, en fait, c'est une question lumineuse. Je me souviens de ce verset biblique « Que la lumière soit et la lumière fut ». Et Louis Lumière apparut. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, ici en France, le fait d'avoir inventé le cinéma. Et avant même le cinéma, Nips invente la photographie. Donc ce pays dans lequel on se trouve est le pays de la lumière et du cliché, si on peut dire. Et donc, va imprimer à jamais ce rapport incongru entre le céleste et le terrestre. C'est-à-dire le fait de filmer en hébreu, le mot faire des films ou le mot film vient de la racine léatsil, tselem, tsilum. Or, le mot lui-même tselem, c'est un mot biblique puisqu'on dit que l'homme a été fait à la ressemblance divine comme une photocopie du divin et qu'en fait le film a quelque chose de messianique en soi puisqu'il va réunir tous les arts, tous les métiers, tous les artisanats, tous les scénarios, tous les scripts possibles, enfin c'est juste immense. Faire des films, c'est juste en fait immense. Et en fait, le cinéma vous le rend bien.
Mais le rapport du cinéma avec le messianisme particulièrement, parce que le messianisme, c'est justement une espérance, c'est une espérance de salut, c'est une ouverture. Comment vous, en tant que cinéaste, vous concevez le cinéma comme ouverture, comme espérance? Quelle espérance vous désirez offrir à vos spectateurs?
En fait, le cinéma, c'est partager immédiatement avec le plus grand nombre. On va choisir le cas idéal. Vous faites un film dans un petit comité, en privé, et puis la terre entière peut, en quelques jours, le découvrir, le voir et vous partager. Il y a quelque chose dans l'idée du partage, la transmission. Un peu comme dans le mot « apprendre » ou dans « apprendre », il y a « prendre », et dans « prendre », il y a « rendre ». C'est-à-dire, faire des films, c'est apprendre à faire des films. C'est apprendre à ceux qui voient les films, et c'est prendre, parce que pour écrire un scénario, pour faire un scénario, on prend à droite, à gauche, et en fait, la restitution réelle, le rendre, c'est-à-dire, vous ne pouvez envisager avoir appris quelque chose quand vous l'avez restitué. Et donc, il y a quelque chose de messianique dans cette idée, malgré tout. Mais on est rattrapé par l'histoire. Hein. Moi, personnellement, je me suis pas dit je vais faire des films parce que c'est messianique. C'est-à-dire qu'en fait, ce messianisme-là, en latence, existe dans ce rapport aux autres magnifique, quand il est magnifique, dans l'idéal, bien sûr, et ce partage universel, directement lié, comme si c'était fait exprès. C'est-à-dire que le cinéma est là pour qu'on partage très très vite. Et les dérivés du cinéma, comme Internet ou la télévision, quoi que ce soit, n'en sont que l'illustration de ce partage.
Je me rappelle d'un commentaire du Rabbi Yitzhak Luria, un commentaire kabbaliste, qui disait que le mot « Messie » en hébreu, qui se dit « Mashiach », peut se décomposer en « Messiach », c'est-à-dire à partir du dialogue, à partir de la parole, et ça allait encore plus loin de ce commentaire, puisque le mot « Siach » lui-même était les initiales de Shem, Yafet et Ham, c'est-à-dire des trois fils de Noé, c'est-à-dire l'universel, et qu'il y aurait messianisme quand on est capable de parler à partir de toutes les composantes du monde. Je pense que c'est quelque chose que vous dites à l'instant dans cette question du cinéma, Pierre-Henri Salfati.
Absolument, et en fait, tous les problèmes que le monde peut connaître, ce sont des problèmes dus à l'impossibilité du partage. Il y a des obstacles au partage. En fait, l'idée messianique, l'utopie des utopies absolues, mais quand dans la judaïté, on va vous parler de la résurrection des morts, alors brusquement, le Messie devient simple. Ce n'est plus une utopie, c'est-à-dire si on doit réfléchir où vont aller habiter, se loger des millions de morts, d'un seul coup, vite, vite, et que le Messie vienne, à la limite, il répondra à la question. Mais l'utopie, par définition, c'est la chose qui va se réaliser. Donc l'utopie messianique, c'est un rêve du partage dans le shalom. Et shalom ne veut pas dire la paix, en fait. Shalom, ça veut dire qu'il n'y a que des vainqueurs. Dans la paix, vous avez un vainqueur, un vaincu, et le vaincu, on voudra toujours un vainqueur. Ici, le shalom, c'est la complétude où chacun, dans son partage, se retrouve à l'équité de ce qu'il est et de ce qu'il veut.
Qu'est-ce que signifie le mot Mashiach ?
Mashiach, c'est l'onction. L'onction qui sous-entend le couronnement. Qu'est-ce qu'une onction ? Tout le monde a plus ou moins entendu parler de l'onction royale, où on pose sur le front du candidat à la royauté quelques gouttes d'huile. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est-à-dire, quel lien peut-on faire entre verser de l'huile sur le front d'un homme, éventuellement d'une femme si c'est une reine, et le produit de l'olive ? Enfin, qu'est-ce que ça raconte, en fait ? Ça demande effectivement une enquête. Et donc, l'onction, simplement déjà à la réflexion, on voit bien, tout le monde en est conscient, qu'il est impossible de mélanger l'huile et l'eau. C'est-à-dire que si on mixe de l'huile et de l'eau, finalement l'huile va survoler l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la vitalité même. L'eau nous permet de nous désaltérer et de vivre, mais non seulement, mais l'eau fait pousser les plantes. La vitalité, c'est a priori l'eau, mais pas l'huile. Or, l'huile flotte sur l'eau. Si vous avez une vieille horloge que vous lui mettez un peu d'eau, elle est morte. Vous lui mettez un peu d'huile, elle revit. Donc cette huile-là, cette meshicha-là, c'est effectivement l'idée, au-dessus de l'esprit, dont l'eau peut être la métaphore, quelque chose nage au-dessus de l'esprit, effectivement, qu'est-ce que l'huile ? De l'eau lumineuse. Il y a une lumière dans l'huile qu'il n'y a pas dans l'eau. Les peintres peignaient à l'eau, puis se sont mis à peindre à l'huile. Les premières vitres, les premières fenêtres étaient des parchemins trempés dans l'huile et donc translucides. C'était la lumière qui passait. L'huile, c'est la lumière. Or, aujourd'hui, l'huile, c'est le nom du pétrole. On dit oil en général. Il n'y a qu'en français qu'on dit pétrole, la pierre d'huile. Or, le pétrole, avec tout ce qu'on connaît de ces désastres, c'est aussi la lumière. C'est-à-dire avec ces lampes à huile. Donc, c'est aussi cette idée-là, c'est-à-dire l'huile dans le judaïsme, c'est ce qui va plus haut que l'esprit. C'est curieux. Il y a quelque chose de plus grand que l'esprit.
C'est plus grand que ce qui est fini. Et le messianisme serait une sorte de rencontre tout à fait exceptionnelle entre le fini et l'infini, Pierre-Henri Salfati.
Oui, c'est exactement l'idée de l'horizon. En français, on dit horizon sans savoir exactement d'où vient le mot. Mais c'est un mot tiré d'Isaïe, la vision. Or, qu'est-ce qu'est l'horizon si ce n'est cette ligne fictive qui ne fait que reculer quand on avance vers elle ? Or, elle trace de façon, on va dire, virtuelle, la limite entre le ciel et la terre. Et de manière poético-métaphysico-philosophico-mystique, le ciel, c'est l'infini, la terre, c'est le fini. Et cette ligne d'horizon qui marquerait une frontière nous laisse supposer qu'elle n'en est pas une. C'est-à-dire que le fini et l'infini racontent à peu près la même histoire, l'une en relief, l'autre en creux. Et l'idée du Messie, c'est justement dévoiler cet horizon, c'est-à-dire vers quel horizon finirons-nous par arriver pour poser un pied tranquille et ne pas courir après un horizon qui ne fait que fuir? Au sens prophétique, l'horizon, c'est la vision. Comme dans son livre, Isaïe voit se construire le troisième temple. C'est-à-dire que cette perspective de limite qui n'en est pas une, tout en étant une entre le fini et l'infini, nous permet de réfléchir sur le passé et le futur. C'est-à-dire que le passé est fini, finalement. Il est fini même au sens du verbe finir. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas de passé ne peut pas avoir de futur. Et le futur est infini. C'est-à-dire, il peut s'ouvrir devant nous de manière absolument vertigineuse. Et donc, cette ligne de démarcation entre passé et futur, c'est ça, le judaïsme. C'est-à-dire, rattraper toujours le passé pour en construire du futur et savoir que notre futur est déjà du passé. Donc, toute la réflexion à partir de là, c'est effectivement, dans la nuit des temps, et même avant la nuit des temps, on avait déjà, dans la pensée juive, conçu le salut du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin précède la maladie, en tout cas pour ce qui est du judaïsme, donc même si ça va très mal, on sait que ça ira que très bien.
C'est un petit peu cette phrase que vous écrivez, ce monde à venir qui nous précède, qui est une très belle formule. Ce monde à venir qui nous précède serait une belle définition du messianisme.
Je pense que c'est exactement ça, oui. C'est-à-dire, c'est le Baal Shem Tov, le créateur juif du chassidisme au XVIIIe siècle, avait ce genre de formule, à savoir que qu'est-ce que la mémoire, c'est ce qui nous fait avancer. Or, la mémoire, il faut reculer dans son passé et puis la mettre en avant. Et effectivement, c'est merveilleux de vivre non pas en ayant fait une croix sur son passé, mais en ayant fait de son futur, qu'il refasse vivre ce passé sans arrêt. Dans la définition hébraïque de ce monde, qu'on appelle Olam Hazeh, ce monde-là, Olam, le monde, et du Olam Haba, du monde futur, de l'avenir qui vient face à nous, eh bien, il ne s'agit pas de le visualiser comme la continuité de ce monde. Ce n'est pas un monde qui va venir par la force des choses, mais c'est un monde qui vient à notre rencontre parce qu'il est parti bien plus tôt que notre monde présent. C'est un monde futur qui vient vers nous, nous ayant précédé même dans notre existence. Nous existons, mais d'où venons-nous? Bon, on peut toujours se poser la question, mais nous, sans même y répondre, nous savons qu'on vient de notre futur qui est placé d'une manière précieuse en attendant sa révélation. Effectivement, dans la Kabbale, vous citiez à juste titre Rabbi Yitzhak Luria, il va inverser quand même dans sa réflexion le sens des choses. C'est-à-dire, on peut dire un homme qui n'a pas de passé n'a pas de futur, mais un homme qui n'a pas de futur, qu'est-ce que c'est en fait? Aucun homme ne peut s'admettre ne pas avoir de futur. On se projette, même sans savoir, parce que comme si on avait une réserve au fond de soi, dans tous les sens du mot réserve. C'est-à-dire une discrétion, et puis un stock. Donc effectivement, ce futur qui nous précède, nous-mêmes, nous sommes à la transition entre les générations qui nous ont amenés au monde et les générations qui nous succéderont. Et on est là.
Alors, on vient de citer Rabbi Yitzhak Luria, et c'est la Kabbale qui a un rapport particulièrement fort avec les mots et le langage, ce qui a toute son importance dans le sujet du messianisme, car vous dites que la caractéristique essentielle du Messie est de bien nommer les choses. J'avais envie d'ajouter, Brice Parrain et Albert Camus sont en train de sourire en filigrane en écoutant cette question, Pierre-Henri Salfati.
Oui, je souris aussi avec eux, parce que quand on fait dire à Albert Camus, bien dire les choses, c'est participer de la construction du monde, en fait, je me suis laissé sous-entendre qu'il habitait quelque part en Algérie, dans le quartier où certains talmudistes vivaient, et qu'il y citait tout bonnement le Talmud, c'est-à-dire bien citer les choses, c'est participer de la construction du monde. Et de participer à sa destruction, on revient à mal nommer les choses. Et en fait, c'est d'autant plus pourtant, ce que vous me suggérez comme questionnement, c'est que le nom du Messie, le Machiach, dont on a dit qu'il était le roi, finalement, de toutes ces désunions qui vont devenir union, de tous ces peuples, ces peuplades, les lettres du Machiach composent le mot Shem Chai, le nom vivant, qui fait vivre le nom des choses. Je me rappelle une anecdote concernant Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, un très grand racine, un personnage extraordinaire, un peu cynique, un peu misanthrope, toutes les qualités pour devenir un homme du futur. qui disait ceci à ses disciples. Il disait « Allez donc voir les autres maîtres racidiques. Là-bas, ils ressuscitent les morts. C'est très facile. Si vous restez là, moi, je ressuscite les vivants. Et ça, c'est bien plus difficile. » Et en fait, ressusciter les vivants participe de renommer les choses, de redonner leur juste nomination aux choses et les faire vibrer de manière vibratoire, effectivement, comme quand on appelle quelqu'un, et si vous êtes derrière lui, il se retourne, il a entendu une vibration qui le rappelle à lui-même. Et le Shemchai, les lettres du mot Mashiach, quand on joue avec les mots avant que ceci ne se joue de nous, c'est bien ça la mission messianique, en fait. C'est reparadigmiser le monde, changer. Regardez, une chose qui me vient comme ça brusquement, entre deux eaux, si je puis dire, c'est ce Noé qui refait le monde, ou ce Moïse qui refait le monde. Tous les deux sont dans une arche, parce que le mot de l'arche dite de Noé est le même mot utilisé par la Torah pour désigner le berceau de Moïse.
Teva.
Teva, et Teva veut dire le mot. Et en fait, on se rend compte que restructurer le monde, être missionné pour rebâtir un monde éventuel, c'est bien revoir son vocabulaire. Nous sommes, nous, dans un world in progress, peut-être. Nous avons tous un job qui est work in progress. Mais en fait, en réalité, nous devrions être dans world in progress, dans world, dans le mot.
Non pas dans le monde, mais dans le mot.
Dans le mot. Mmh. C'est-à-dire que chaque jour suffit à apprendre un mot nouveau. Et on peut faire le distinguo des individus entre les mots qui sont capables d'emmagasiner et de restituer, comme dans apprendre et à rendre. Donc restituer le nombre de mots, c'est le distinguo entre les individus. Et le Messie, c'est celui qui va, pour ainsi dire, être l'auteur d'un nouveau lexique, ou non pas des néologismes, mais simplement de revoir le sens des mots. Reprenons les choses dans leur ordre. Qu'est-ce que le Aleph? Qu'est-ce que le Beit? Qu'est-ce que sont les lettres qui structurent? Or, le mot Aleph, qui veut dire une lettre, la première initiale, Aleph veut dire enseigner. Qu'est-ce que veut dire Beit? Beit, c'est pas simplement la deuxième lettre. Beit veut dire une maison. Qu'est-ce que veut dire Gimel? Gimel, c'est pas simplement la troisième lettre.
C'est un chameau.
Chameau. Mmh. Et en fait, avec un peu d'eau, le chameau traverse le désert. Qu'est-ce que Dalet ? Une porte. C'est-à-dire, au-delà du désert, il y a une porte. Et ainsi, on restructure un vocabulaire à partir de son alphabet, ça vous le savez mieux que moi. Et en fait, le Messie, c'est celui qui redonne aux mots leur sens, on va dire, du passé pour le futur.
C'est une forme de poésie aussi. C'est-à-dire que redonner au langage, non pas sa mission purement technologique, mais aussi poétique, donc un imaginaire. Sous les mots, d'autres mots, dit le Midrash. Oui. Mots cachés, sous les mots dévoilés. C'est toute l'essence de la fête de Pourim que nous avons fêtée la semaine dernière. Fête des choses cachées et des choses dévoilées. Temps messianique par excellence, dites-vous dans votre livre. En quel sens? Et puisqu'à Pourim on se déguise, je me suis posé la question, quel est le déguisement préféré du Messie, Pierre-Henri Salfati?
Alors, le voile dont vous parlez, en hébreu, est un mot qui à la fois veut dire voilé et le monde. Le mot olam. Olam veut dire voile, elem, qui se cache. Et olam, c'est le monde, donc qui se dévoile. Un monde dévoilé montre ce qu'il cache. À nous de savoir lire entre les lignes et de voir comment quelqu'un qui se dévoile à vous a tant de choses à vous cacher. Et la confusion des sentiments, des intellects, des émotions, elle est justement comme cet horizon. Que se passe-t-il dans la zone entre le LM qui veut dire voilé dans le sens de cacher et le Olam qui veut dire dévoilé dans le sens de montrer? Quelle est la marge de manœuvre? Et en fait, l'idée messianique, c'est effectivement le déguisement du Messie, puisque vous le rappelez absolument, Pourim, c'est presque le premier carnaval de l'histoire. Il faut rappeler peut-être deux, trois éléments, c'est-à-dire Pourim, c'est une histoire qui se passe en Perse antique, où il était question de génocider le peuple juif. Et voilà que les instigateurs de l'extermination du peuple vont être vaincus, et donc le vainqueur devient vaincu, et le vaincu devient vainqueur, et c'est une image pour signifier l'inversion des valeurs, l'inversion de ce qui semblait être acquis. Et donc Pourim, finalement, pour le petit peuple juif qui est sauvé du malheur, eh bien on va restituer l'image par le déguisement. Et le déguisement, si vous voulez, cache, voile, je me déguise, je ne suis plus moi-même. Mais en fait, on peut savoir lire dans le déguisement quelle est la personne qui se déguisera comme ça plutôt que comme ci. C'est-à-dire que même en voulant se cacher, quand on a un œil un peu averti, on sait très bien que c'est un tel qui est sous ce masque-là, un tel sous ce masque-là. Et en fait, je pense, pour répondre à votre question absolument judicieuse, c'est-à-dire quel est le cachement du Messie, je pense que c'est le trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est toute forme de trompe-l'œil, c'est un Messie. Hein, c'est-à-dire qu'on croit avoir vu une chose, puis d'un seul coup on prend un recul, on la voit différemment. Et je crois que le trompe-l'œil, c'est ce monde qui nous le signifie chaque jour. Chaque jour davantage, nous sommes trompés, nous sommes dans le fake. Et nous sommes incapables de faire le distinguo, là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, entre le vrai et le faux, on sera plus ferme le distinguo. Et c'est en ça que Pourim vient nous sauver, d'une certaine manière, puisqu'on dit que le Messie, c'est celui qui te dit « ça c'est un fake, ça c'est un vrai ».
Entendre les Beatles dans une émission sur le Messie surprendra certainement, mais je crois que cette chanson dialogue particulièrement avec le Messie, du moins avec votre vision du Messie, Pierre-Henri Selfati, et ceci pour deux raisons. La première est cette référence à la France que l'on entend dans les premières notes de la Marseillaise au début de la chanson. Et la seconde raison, ce rapport à l'amour, chanté ici dans cet hymne à l'amour, amour que vos analyses du Cantique des Cantiques met en lien avec la figure du Messie. Commençons, si vous le voulez bien, par la France. Que vient faire la France dans une réflexion sur le Messie, Pierre-Henri Selfati?
C'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement surprendre. Quand on lit les prophètes d'Israël, on voit citer la France comme lieu de la révélation, curieusement. Quand on s'y reprend à deux fois, mais qu'est-ce que la France vient faire au milieu de tout ça? Je me souviens simplement de la Déclaration des droits de l'homme, initiative française. Eh bien, quand on va voir dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à l'article Déclaration, voilà que les auteurs de l'encyclopédie disent une chose étrange. Ils disent « Nous avons cherché longtemps quel pouvait être le support matériel de notre déclaration. Nous n'avons rien trouvé de mieux que la loi naturelle de Moïse. Donc nous inscrirons, nous graverons, nous imprimons la déclaration française des droits de l'homme sur les tables de la loi de Moïse. » Et on se souvient que dans les préfectures, dans les mairies, dans les écoles, il y avait ces deux tables arrondies de la loi avec « tous les hommes sont nés libres et égaux en droit ». Et donc aujourd'hui, on a ce constat hallucinant. C'est que quand vous voyez ce qui se passe dans tous les coins du monde, vous n'avez qu'une alternative. Ou vous suivez la déclaration universelle des droits de l'homme, ou non, ou vous la réfutez. Mais quand Lénine, quand Staline, quand Mao, quand Pol Pot, quand toutes ces peuplades qu'on connaît se réclament de Robespierre à la Sorbonne, se réclament de la Révolution française, vous voyez l'impact de la France même à un niveau, on va dire, géopolitique. C'était pas pour rien qu'en France, effectivement, on a cette espèce de chauvinisme. Nous sommes, nous, la lumière du monde. Et donc la France va jouer un rôle d'autant plus crucial que quand on se plonge dans les livres hébraïques, on voit qu'elle est Tsarfat. Tsarfat, c'est le nom hébraïque de la France. Tsar veut dire étroitesse, ça a donné le nom des Césars, ça a donné le nom des Kaisers, même des Romanov. Tsar, celui qui va rendre étroit son peuple. Et Pat, qui veut dire deux choses. Pat, c'est Pita, la pitance, le pain. Et Pat, quand on le prononce Put, ça veut dire l'utérus. La difficulté de l'accouchement. En France, on vous nivelle par le bas. Mais si on s'en sort, on peut aller très haut. Et en fait, on est dans cette ambiguïté aujourd'hui de la France du pas et de la France de l'accouchement. C'est-à-dire la France du passé et la France du futur. Et dans la tradition hébraïque, la France a ce rôle, effectivement, hexagonal, ce rôle de mixité absolue et d'inspiratrice de l'humanité. Si on devait faire la liste de tout ce que la France a amené au monde, mais on serait nous-mêmes absolument surpris, sans être chauvin.
J'ai failli dire monsieur l'ambassadeur, mais ce qui est intéressant, c'est que le rabbi de Lubavitch, à New York, un jour, en plein office, devant des milliers de fidèles, a commencé à chanter la Marseillaise. Racontez-nous cette anecdote, Pierre-Henri Salfati.
Menachem Mendel Schneerson s'est mis à chanter Aderet Vaemuna, c'est-à-dire une prière juive, sur l'air de la Marseillaise. Je vous dis pas l'effet brutal que ça a généré. Ce jour-là, venaient de France deux petits groupes de chassidim français, et donc, un peu en leur honneur, le rabbi s'est mis à chanter la Marseillaise. Et en fait, pour l'anecdote, à la stupeur déjà de la chose, la semaine qui va suivre, les Français qui étaient là ont rejoint la France. Moi, il se trouve que j'habitais à New York à ce moment-là, les Shiva. Les chassidim ont cru devoir chanter la Marseillaise de la semaine d'avant. Et le rabbi les a interdits. Non, ce n'est que pour la France. Et en fait, la Marseillaise en question va devenir, à la manière dont le prédécesseur du rabbi de Lubavitch en question, Rabbi Schneur Zalman, il a dit qu'il avait pris des chants napoléoniens pour en faire des chants chassidiques, c'était pour, d'une certaine manière, faire jaillir le sacré du profane. C'est-à-dire profaner une chose en la rendant sacrée. Il faut le faire. Et donc, le rabbi a fini ses jours avec des discours sur la France.
Dans la chanson des Beatles, il y avait deux raisons qui faisaient qu'on pouvait l'écouter dans son rapport au messianisme. On vient d'évoquer la France, mais il y a aussi Love, 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 trois fois Love. Et ça m'a fait penser à trois versets du Cantique des Cantiques que je vous cite. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Le verset est répété trois fois. Des versets interprétés comme la nécessité de ne pas hâter la venue du Messie. Une étonnante ascèse messianique, en quelque sorte, Pierre-Henri Salfati. On a l'impression que on voudrait tous que le Messie, quand on y croit, arrive le plus vite possible. Et là, on nous dit de ne pas réveiller le Messie avant qu'il ne vienne, qu'il ne décide de venir lui-même. Comment vous le comprenez?
En fait, c'est absolument remarquable, cette affaire. Parce que on voit, dans l'histoire du peuple juif, qu'il n'y a pas une époque où les Juifs n'étaient pas persuadés que le Messie allait se dévoiler. À la souffrance du peuple, les épreuves que le peuple a dû subir, forcément il y avait un rabbin pour dire « le Messie est en train d'arriver ». Et en fait, les siècles se succédant, on peut même dire les années se succédant, étaient autant de prétextes à la venue du Messie, avec les meilleurs arguments. C'est vrai qu'on pouvait se dire qu'après la Shoah, ou que pendant après l'Inquisition, le Messie, c'était une manière de hâter justement la chose que de penser qu'il viendrait plus tôt que ce qui est annoncé quand même dans la Torah, que le Messie ne viendra pas au premier millénaire, au deuxième millénaire, au troisième millénaire, au quatrième millénaire, au cinquième millénaire, qu'il viendra pendant le sixième millénaire, notre temps à nous aujourd'hui, juste en passant comme ça. On voit bien que Dieu lui-même, pour correspondre au Cantique des Cantiques, n'a pas hâté la venue du Messie avec quand même les meilleurs arguments pour qu'il vienne plutôt dès le premier siècle, dès le deuxième siècle. Et c'est, pour reprendre votre introduction, c'est ce qui fait la distinction entre le christianisme et le judaïsme. C'est le christianisme voit déjà plus tôt ce que le judaïsme prend du temps pour finir par voir. Et en fait, ce qui semblerait laisser dire que ceux qui ont voulu faire venir le Messie trop tôt n'avaient pas compris que le Messie serait toujours en retard, toujours en retard, toujours en retard.
Alors là, vous anticipez un petit peu ma question parce que je me souviens de ce livre de l'écrivain Arnold Mandel, paru en 1988 aux éditions des Clés de Brouwer, édité et préfacé par Victor Malka, qui avait choisi et pour ce livre et qui avait eu la très bonne idée de choisir le titre « Le Messie est en retard ». Pensez-vous, mais vous venez de répondre, mais je vous pose quand même la question, peut-être vous allez l'affiner. Pensez-vous, Pierre-Henri Salfati, que le Messie sera toujours en retard? Je pense ici à deux phrases, l'une tirée de votre livre. Le Messie n'est rien d'autre que le paradigme d'une rencontre entre l'impossible et l'inéluctable. Et l'autre phrase est de Kafka. Le Messie ne viendra que lorsqu'il ne sera plus nécessaire. Il ne viendra qu'un jour après son arrivée. Il ne viendra pas au dernier, mais au tout dernier jour. Cela mérite commentaire.
C'est merveilleux, en fait. C'est vrai. Moi, je profite pour saluer Victor Malka. Son nom, déjà, Victor, la vie, Malka, la reine, qui évoque le Cantique des Cantiques, qui évoque le Messie, dans son propre nom. Et effectivement, qui avait vu juste, c'est-à-dire que ce retard anticipé était déjà prévu. Il est prévu qu'on raterait le coche plusieurs fois. Donc ne nous affolons pas. Et effectivement, c'est merveilleux. C'est-à-dire, en fait, je peux juste citer cette histoire entre deux écoles du judaïsme qui sont toujours d'actualité. Ceux qui sont des chassidim, c'est-à-dire qui boivent beaucoup de vodka, on va dire, et ceux qui sont contre toute forme de fantaisie ou de folie, qui sont très rigoureux, qui sont les ultra-orthodoxes. Le Messie se dévoile. Il vient rendre visite d'abord aux orthodoxes ultra, et qui lui font des démonstrations d'érudition, et ma foi, il fait la moue. Et ils sont déçus. Ils avaient pris leurs meilleurs éléments pour impressionner ce Messie. Et devant cette déception, une arme de déception massive, ils disent, mais quoi? Non, mais c'est tout ce que vous avez fait en toutes ces années. Mais tu es venu trop tôt. Il dit, laisse-moi encore un peu de temps. Il va avoir les chassidim qui sont en pleine beuverie, qui ont bu, qui dansent, etc. Mais il n'y a plus rien à boire. Et là, il se plaint auprès des chassidim. Mais, enfin, franchement, il n'y a plus rien pour boire. Ben, tu es venu trop tard. C'est en fait, on pourra toujours dire que le salut vient à point, même si c'est trop tard.
Merci Pierre-Henri Salfati pour cette conversation puissante et espérancielle. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Des Clés de Brouwer, Dévoilement du Messie, avec une belle préface de François Esperet, des pépites à chaque page qui font sourire la pensée. Merci encore Pierre-Henri Salfati.
Merci à vous, grandement merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus, à la réalisation Alexandra Malka. Kol Touv, le Hitraot, au revoir, bonne fête de Pâques, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.